France Info.
Bonjour Laura Adler.
Bonjour.
Quand on évoque votre nom, on pense immédiatement et d'abord à la radio, à France Culture et à France Inter, à cette maison ronde qui vous a ouvert ses portes dès vos 20 ans, presque par hasard d'ailleurs. Vous avez gravi chaque échelon d'assistante à directrice de France Culture en passant par la production, l'écriture et la présentation. Vous avez sans conteste grandi dans cette maison, autant que beaucoup ont grandi à vos côtés. Mais ce qui apparaît, c'est le parcours que vous avez d'ores et déjà accompli avec une exigence en guise de boussole, une exigence respectée et inspirante. Vous avez d'ailleurs donné envie à beaucoup de suivre votre chemin et je suis bien placée pour le savoir. Alors la radio, évidemment, la télé aussi. Vous avez également laissé votre empreinte avec le fameux Cercle de minuit, mais aussi l'écriture et vos nombreux ouvrages, biographies, essais, principalement consacrés aux femmes, à des personnalités qui ont marqué l'histoire. Oui, Laura Adler, vous êtes cette femme qui s'est octroyée à une autre époque, c'est-à-dire celle qui était très patriarcale, le permis de penser, avec comme haut-parleur et vecteur le micro et l'image, les écrits. Vous venez de publier Vierge, histoire et tabou chez Albin Michel, avec cette question en bandeau, pourquoi le fantasme de virginité continue à hanter nos imaginaires? Vous nous offrez plein de réponses. Quelle est la vôtre, finalement, Laura Adler?
J'appartiens à une époque où j'ai eu beaucoup de chance, puisque je suis rentrée dans le féminisme à l'âge de 18-19 ans. Et là aussi, ça a été une autre famille, une autre école de solidarité, d'indépendance, de contestation aussi des codes patriarcaux. Et la virginité, pour moi, ça s'inscrit complètement dans une étude que je fais depuis très très longtemps du corps des femmes. Je pense que notre indépendance, nous femmes, passe par l'indépendance du corps des femmes. On l'a bien vu avec les luttes pour la contraception, on l'a bien vu avec les luttes pour l'avortement, on l'a bien vu très récemment avec la constitutionnalisation de l'avortement à l'Assemblée nationale, et on continue à le voir absolument chaque jour. Oui, l'intime est politique, et quoi de plus intime que le corps des femmes? Et ce corps des femmes, eh bien, il est toujours complètement fantasmé, il est toujours complètement démultiplié, il est toujours un imaginaire pour des hommes qui l'ont recréé selon leurs propres codes et leurs propres désirs. Les hommes ont créé le corps des femmes selon leurs propres désirs, et quoi de plus symbolique, effectivement, que de pénétrer une femme, que de faire effraction dans le corps d'une femme pour la faire sienne, généralement lors d'une nuit de noces. Au XIXe siècle, de nombreux tableaux en attestent, de nombreux récits de littérature des plus grands écrivains, de Zola en passant par Balzac, etc., en attestent. Le corps des femmes est un coffre-fort, et ce depuis le début de l'humanité, mais encore aujourd'hui, quelle ne fut pas ma surprise de constater que ce corps-là, il appartient d'abord aux hommes et ensuite peut-être aux femmes une fois qu'il est pénétré. Donc avec tous ces fantasmes qui sont rattachés à la virginité et à l'hymen, on se trouve en pleine exploration des luttes entre les masculinistes et les femmes.
Finalement, la virginité, ça représente la première fois, hein, pour une femme notamment. On se rappelle toutes, Laura Adler, de notre première fois.
Ben moi, je m'en souviens, vous vous souvenez de la vôtre?
Évidemment.
On y allait en tremblant, parce qu'on se disait, mon Dieu, est-ce qu'on va avoir mal? Est-ce que ça va bien se passer? Et est-ce que ça va continuer avec lui? Parce que moi, j'appartiens à une génération où ma mère ne m'a jamais rien dit sur mon éducation sexuelle. Quand j'ai posé des questions sur les règles, parce que à la virginité aussi sont associées des tas d'étapes cruciales et très importantes de la femme. Justement, les premières règles, ensuite la ménopause, tous les états corporels, psychiques de la femme sont attachés à cette virginité, soi-disant virginité, puisque l'hymen biologiquement n'existe pas. Mais moi, j'appartiens à une génération où ma mère m'a dit « quand tu coucheras », puisque c'était le mot qu'on employait à l'époque, mais les mères employaient, « quand tu coucheras, il faudra que tu décides, ça sera après ton mariage, la nuit de noces, parce que si tu couches avant, ben, tu ne seras plus mariable ».
C'est ce que vous décrivez à l'intérieur de cet ouvrage. Il est fascinant, cet ouvrage. On se rend compte effectivement à quel point cette virginité a toujours fait partie de nous, qu'on soit ou pas catholique. D'ailleurs, vous en revenez aussi déjà effectivement à cette association systématique qu'on fait entre la virginité et la religion. Petite fille, on nous fait comprendre que la virginité, c'est sacré, que c'est un chemin à emprunter.
C'était sacré. Dans l'histoire des civilisations, et notamment dans la Grèce antique, les fameuses vestales qui accompagnaient les déesses se devaient d'être vierges. Mais une fois qu'elles avaient accompli leur cérémonie, elles pouvaient retourner à la vie civile. Mais effectivement, à l'intérieur de l'histoire des religions et des civilisations, vous avez un signe quasi d'égalité dès l'aube de l'humanité entre, d'ailleurs on dit, les terre vierge. Vous êtes vierge de fantasmes, vous êtes vierge de connaissances. Ce mot même de virginité est associé à l'innocence, à quelque chose d'incomplet, à ce qui doit être terminé. Et à la virginité s'associe, la virginité féminine, s'associe le fantasme que l'homme va terminer la femme en la pénétrant. Et de grands philosophes, et je n'en prendrai qu'un qui a été déterminant pour pouvoir assurer finalement ces fantasmes et cet imaginaire de la virginité durant des siècles et des siècles. Il a fallu attendre le 18e siècle pour que des découvertes médicales puissent attester que non, le corps de la femme n'était pas un vase qui accueillait le sperme de l'homme qui lui-même était le seul fabricant de l'enfant à venir. Mais Aristote a toujours pensé qu'effectivement, la virginité, c'était le point de passage par l'homme et pour l'homme pour compléter, pour faire enfin une la femme qui ne l'est pas encore avant d'être pénétrée. J'ai mis du temps à m'en apercevoir. Il faut quand même aussi souligner que les hommes vierges, ça existe.
Mais le mot masculin n'existe pas.
Le mot disparaît. Par contre, ce que j'ai découvert au cours de mes recherches, c'est que jusque vers le 10e, 11e siècle après Jésus-Christ, il y a eu des hommes vierges qui ont fait partie d'un catholicisme qui était en train de se répandre à travers la terre, parce qu'ils estimaient que être vierge, pour eux, c'était mieux assumer la parole de Dieu, la parole du Christ, etc. Donc on voit bien que est associé à ce mot de virginité une espèce d'authenticité, de liberté non violée, etc., etc.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on découvre qu'effectivement, quand une femme perd sa virginité, il y a un sentiment de gêne, on a l'impression par moment d'être salie, et il y a un sentiment presque de honte. Alors qu'un homme, quand il est dépucelé, c'est un peu une espèce de victoire.
Mais au 19e siècle, il y a florès de livres, de témoignages, etc., qui montrent que les pères emmener leur fils au bordel, puisque c'est le grand siècle des bordels, pour pouvoir être dépucelé, entre guillemets, par des professionnels, entre guillemets aussi. Mais il y avait là aussi une étape initiatique de la masculinité qui devait passer par là. Alors qu'une femme, à cette même période, et je pense encore aujourd'hui, puisque j'ai pu faire une enquête aussi auprès de gens qui sont des spécialistes de l'hymen et des grands experts de la virginité.
C'est ce que vous racontez dans l'ouvrage d'ailleurs.
Ouais. C'est dingue, mais il y a beaucoup de femmes qui vont se faire réparer l'hymen pour pouvoir faire croire à leur nouvel amoureux qu'elles arrivent dans une relation complètement vierge, qu'elles vont leur être dévouées, que ça va être le premier homme, etc. Et cette réparation de l'hymen a été interdite en France il y a maintenant quelques années, mais elle a perdu duré pendant de très nombreuses années, mais ça reste encore une pratique illégale qui reste absolument massive. Donc ça veut bien dire, moi je ne juge personne. J'essaye de comprendre, j'essaye d'observer, j'essaye de faire se croiser des points de vue, de civilisation, d'histoire, de religion, de pratique aujourd'hui et de mode de la virginité, parce que moi-même étant une grande adepte des séries et que je peux pas m'endormir le soir sans regarder des séries, je me suis aperçue que la virginité était un thème obsessionnel de très bonnes séries. Donc la virginité,
notamment chez les ados aujourd'hui d'ailleurs, c'est ce que vous soulignez. Hein.
Mais alors ça, c'est plus inquiétant chez les ados, parce que sur les réseaux sociaux qui sont utilisés par les ados, vous avez le retour de codes masculinistes extrêmes qui montrent des jeunes filles avec des tailles de guêpe, des grosses fesses, des gros seins et qui évidemment doivent être vierges. Et il y a des fantasmes de prédation des très jeunes gens sur des corps, entre guillemets, qui doivent être virginisés. On n'en est plus du tout à la période où Madonna chantait « Like a Virgin » et se foutait de la gueule de tous les codes des filles qui arrivaient en blanc à l'église ou qui faisaient croire à leur bienheureux amoureux que ça serait pour la vie et qu'elle n'aurait qu'un homme. Non, on retourne dans une société de civilisation, une civilisation plutôt régressive par rapport aux droits des femmes, la liberté et l'indépendance des femmes. Et j'en veux pour preuve la reviviscence absolument dingue. Je savais que ça existait, mais j'étais faire mes enquêtes aussi. Des bagues de pureté aux États-Unis, c'est absolument incroyable. Aux États-Unis, vous avez des États entiers, des États profonds, comme on dit, des États-Unis, où vous avez des pères qui font des grandes cérémonies avec des centaines et des centaines de personnes, où les filles s'agenouillent devant leur propre père pour leur jurer fidélité et leur père leur demande virginité pour leur futur mari. On en est là. Et ça existe tous les jours.
Vous ouvrez d'ailleurs ce livre sur Like a Virgin et sur Madonna. On est en 84. C'est vrai que ce titre a fait couler beaucoup d'encre. Il a surtout secoué l'Amérique de Bush et son programme Abstinence Only qui a été vraiment percuté de plein fouet là. Et ça a montré d'ailleurs, j'ai l'impression, une voie de possibilité d'émancipation pour beaucoup de femmes. Laura Adler.
Oui, la chanson est extraordinaire. Le clip.
Le côté sexy. Enfin.
Voilà, l'éloge de l'appartenance d'une femme à son propre désir quand elle le veut, avec qui elle le veut, et surtout la liberté dont elle fait preuve. Et d'ailleurs, elle va être critiquée par toutes les ligues de vertu des États-Unis, mais ça va lui permettre l'apparition de sa notoriété qui ne va jamais cesser depuis. Elle emploie dans les codes qu'elle va utiliser pour propager cette chanson qui est une espèce de bible d'indépendance de l'érotisme au féminin, elle emploie des attitudes où elle dit, elle se met à égalité avec les mecs. En fait, parce que d'habitude, c'est les hommes qui nous séduisent. Mais là, Madonna, elle inverse complètement le truc. Elle est aussi séduisante qu'un homme. Elle utilise les codes de séduction des hommes. Et le monde lui appartient. Et ça a continué. Beyoncé aussi s'est déguisée en vierge. Les chanteuses ont véritablement un rôle absolument cardinal dans la possibilité de faire comprendre, notamment aux jeunes générations, que la virginité est un fantasme et que leur corps leur appartient. Et puis les films aussi, et puis les séries, etc., etc. Parce que revendiquer sa propre virginité, ça veut dire essayer de s'enfermer à l'intérieur de soi pour ne pas être atteint par les violences du monde. Alors ça existe. Être vierge aujourd'hui, ça reprend un peu de couleur. C'est moins honteux qu'il y a 5-6 ans. Par exemple, sur Internet, vous allez pouvoir trouver des sites qui ont été faits par des filles et des garçons qui sont vierges et qui n'osaient jamais se le dire, qui se sont fabriqués un petit site où ils échangent leurs propres histoires et qui abandonnent un peu leur honte. Et moi, je ne juge pas. Je considère que c'est un mouvement de la société et qui disent « Mais moi, je garde ma virginité pour le grand amour. Et si je ne trouve pas le grand amour, eh bien, je resterai vierge et finalement, je m'en fous. Mon corps restera avec son éloge du plaisir, qui passera par d'autres moyens que je ne préciserai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, cette histoire de virginité est d'autant plus intéressante que moi, elle me fait penser au futur de nos sexualités. Vous avez bien vu que la sexualité, elle passe beaucoup par les portables, par les écrans, par les ordinateurs, etc. Il y a beaucoup de sexualité qui s'échange tactilement. On met les doigts, on approche de moins en moins les corps. Mais au Japon, de plus en plus de sexualité, notamment du côté des jeunes générations, mais pas que, il y a maintenant des robots qui sont entièrement dédiés à l'éloge du plaisir pour celui et celle, mais c'est d'abord les messieurs qui sont des consommateurs, qui n'ont pas envie d'être avec des autres.
Vous-même, vous avez été touché par un symbole, qui est la Vierge Marie. Vous le racontez d'ailleurs dans cet ouvrage. Hein. Vous dites que vous avez rompu un peu cette chaîne lors d'une boum avec un garçon dont vous étiez amoureuse. Et vous dites que vous avez, au fond de votre sac, une médaille de la Vierge miraculeuse.
Oui, je qui peux vous la montrer.
Offerte par une amie à un moment donné où ça a été très difficile pour vous. Et que vous avez dans votre entrée, sur une étagère, à côté de la photo de votre mère, une vierge en plâtre que vous avez achetée, semble-t-il, au Mexique. Notre rapport à la Vierge Marie est quand même encore toujours très ancré.
Écoutez, avant-hier, samedi, je suis passée devant le Bon Marché. Il y a une rue où il y a une dévotion à la Vierge. Il y avait, mais, des centaines et des centaines de personnes qui se pressaient. Maintenant, quand je me balade dans les rues des villes, qu'elles soient françaises ou étrangères, et particulièrement dans des pays d'obédience plutôt catholique, je ne vois que des vierges. Si vous êtes attentif, elles sont dans des petites niches, au-dessus des entrées d'immeubles, au carrefour des villages, devant justement les villages. Elles sont partout dans la campagne aussi, à chaque fois qu'il y a un croisement. La Vierge, moi j'ai été élevée dans la tradition catholique, ma grand-mère était très croyante, et ma mère aussi, elle m'a transmis ses valeurs. Ensuite, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai perdu la foi. mais je n'ai pas perdu la culture de mon appartenance à un certain catholicisme. Je n'ai pas perdu les figures protectrices et bienveillantes de mon enfance et de mon adolescence. Moi-même, je suis passée par les deux communions, etc., etc. Et je trouve que la figure de la Vierge, d'abord, c'est un ravissement de beauté quand on va dans des musées pour voir à quel point cette figure de la Vierge a été illustrée par les plus grands génies des peintres de l'humanité, pas seulement à la Renaissance, mais depuis le Xe siècle jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore des artistes contemporains qui utilisent encore la Vierge, comme par exemple Kiki Smith ou Banksy, etc., etc. Donc la Vierge est encore un support de créativité aujourd'hui pour des jeunes créateurs. Mais c'est aussi, pourquoi ça ne serait pas une consolation? Pourquoi on s'autoriserait pas, dans notre civilisation qui est si cruelle, d'avoir ces petits doudous? Moi, c'est la Vierge.
Et elle représente toujours d'ailleurs une forme de liberté. On n'a jamais réussi à dire comment ça avait été possible de,
oui,
de mettre au monde sans y avoir touché.
Comment la Vierge a-t-elle accouché de Jésus? Ça, c'est encore, il y a eu des tas de conciles qui en ont discuté pendant des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, c'est passionnant de lire le compte-rendu des conciles.
Je voudrais qu'on parle juste de ce slogan qui est très important, notre corps nous-mêmes. C'est quand même ce que vous mettez en avant. L'important, c'est de garder effectivement cette intimité qui est finalement très politique, mais l'importance de conserver le droit de disposer de son propre corps.
Ben, ça a été un tellement long combat en France. Ça a été tellement dur. Là encore, moi, quand j'étais jeune, il était faire l'amour, ça voulait dire possibilité de tomber enceinte, et possibilité de tomber enceinte, ça voulait dire se faire avorter dans des conditions illégales absolument affreuses. J'ai accompagné beaucoup d'amis dans des histoires d'avortement, je les ai accompagnés aussi au MLAC, au mouvement de libération pour l'avortement. On a pris des risques, hommes et femmes, hein, parce que dans le MLAC, il y avait beaucoup d'hommes aussi qui procédaient à des avortements. J'ai accompagné beaucoup de personnes aussi en Angleterre, parce que c'était permis en Angleterre. On avait l'impression, cette lutte, le côté extrêmement courageux, déterminé, remarquable de Simone Veil, qui a porté cette loi et qui nous a changé notre condition, quelle que soit notre classe sociale. Parce que quand on a de l'argent, on peut toujours trouver un médecin qui vous le fera. Mais quand on n'a pas d'argent, on se fait curter par des gens qui sont pas assermentés, qui savent pas faire. On peut avoir des séquelles dans son corps toute sa vie. Moi, je pensais que cette histoire de liberté des femmes était acquise à tout jamais. Quand j'ai vu ce qui s'était passé aux États-Unis, par l'intermédiaire de Trump, qui continue d'ailleurs à faire un combat où les femmes, il faut les attraper par la chatte, il faut qu'elles soient des épouses, et le reste des femmes n'existe pas, y compris pas les homosexuels, les trans, etc.
Il a réussi à faire annuler, hein, je le redis, la contraception quand même par la Cour suprême.
Oui. Par des femmes d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez combattre pour les droits des femmes. Ça aussi, c'est une contradiction, mais c'est une réalité. Donc notre corps, nous-mêmes, ça passe par la possibilité de croire en nous-mêmes, de vivre dans le plaisir de l'égalité avec les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pour l'égalité des femmes avec les hommes, et pour changer l'idée de l'amour qui passe, évidemment. Mais il y a beaucoup d'hommes hein, qui vivent dans l'égalité et dans l'éloge de l'amour. Mais le combat n'est pas terminé, et c'est un combat sur lequel il faut rester vigilant, parce que je l'ai constaté en tant qu'historienne du droit des femmes. Les droits des femmes, ça monte pas comme ça, comme une muraille qui se consolide. De temps en temps, ça retombe. Donc, il faut être très attentif et très vigilant.
Il est passionnant, ce livre.
Ben, merci Adler. Beaucoup.
Merci beaucoup, parce que ça a été vraiment un plaisir de le parcourir, et surtout bah, ça nous permet aussi de nous poser des questions et de se dire qu'effectivement le combat il faut le continuer. Vierge, histoire et tabou, c'est sorti aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Laura Adler d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info.
Merci à vous.